Vous écoutez, on lit pour vous.
Le vol d'opioïdes par le personnel de la santé, un phénomène inquiétant. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir. Des dizaines de milliers de comprimés d'oxycodone et d'hydromorphone, dit l'audite, ont été volés dans les hôpitaux et les pharmacies du Québec depuis 3 ans, selon les données obtenues du Bureau des substances contrôlées de Santé Canada. On parle aussi de centaines de timbres de fentanyl et de milliers de millilitres d'opioïdes injectables. Si le contexte des vols n'est pas précisé, on sait qu'un certain nombre sont le fait du personnel de la santé, parfois aux dépens de patients vulnérables. À la suite d'une chirurgie, l'infirmière Geneviève, nom fictif, jeune trentenaire, se fait prescrire du dilaudide. Comme la douleur persiste, elle commence à dérober des fioles d'opioïdes injectables au CHSLD où elle travaille. Pendant 10 mois, elle réussit à passer sous le radar, malgré les nombreuses mesures mises en place dans les établissements de santé pour éviter ce type de vol. Elle se fait prendre lorsqu'elle tente de subtiliser une seringue d'hydromorphone destinée à un patient en fin de vie pour la remplacer par une seringue d'eau saline. Congédiée, elle arrête de consommer et se trouve un nouvel emploi dans un autre établissement. Mais elle rechute. Un matin, ses nouveaux collègues constatent qu'elle est au ralenti et que son poste de travail est sans dessus-dessous. Il y a des narcotiques sortis éparpillés sur des chariots et le comptoir, et des fioles brisées ou collées avec du ruban adhésif, peut-on lire dans la décision du Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, OIIQ, rendue en 2021. Il s'agit d'un cas malheureusement trop fréquent, où ce professionnel perd graduellement et inexorablement tout contrôle, et cherche par différents moyens à s'approprier des médicaments se trouvant sur les lieux de travail. Celui-ci devient absorbé dans une spirale qui le pousse vers une consommation sur les lieux de travail, indique le conseil de discipline qui a imposé à Geneviève une radiation de 9 mois et une limitation d'exercice de 18 mois au cours de laquelle elle ne peut être en contact avec des narcotiques dans l'exercice de ses fonctions. Son cas est loin d'être unique. Depuis 2020, Le Devoir a répertorié 25 décisions du Conseil de discipline concernant des vols d'opioïdes faits par du personnel infirmier et 10 autres concernant des vols faits par des infirmières auxiliaires. Nous avons modifié les prénoms pour protéger l'identité des personnes en cause. Ces professionnels de la santé font partie des rares employés du réseau à avoir accès aux substances contrôlées, soit à des médicaments à fort potentiel d'abus comme les opioïdes. Les infirmiers peuvent avoir facilement accès à des narcotiques dans le cadre de leurs fonctions, que ce soit des restants de fioles ou des ampoules entières. Or, il est essentiel qu'ils n'abusent pas de leur position de confiance pour se les approprier, écrit le Conseil de discipline dans une autre décision rendue en 2021. Cette proximité les rend vulnérables à se prêter à ce genre d'abus. Différents stratagèmes. Certains ont réussi à se procurer des centaines de fioles ou de comprimés d'opioïdes pendant des mois, voire des années, avant de se faire prendre. Les dossiers consultés montre que les vols se font souvent pendant les quarts de nuit, lorsque le personnel est réduit, mais ils peuvent survenir à tout moment et dans divers milieux. Dans les CHSLD, à l'urgence, aux soins intensifs, au bloc opératoire ou aux soins palliatifs, des milieux où l'usage d'opioïdes est courant. Récupération de restants de doses devant être détruits. Falsification de dossiers de patients. Vol dans les piluliers ou dans l'armoire à narcotiques. Plusieurs stratagèmes sont élaborés pour contourner les règles de sécurité qui encadrent l'usage des opioïdes dans les hôpitaux. Dans les pires cas, le professionnel va jusqu'à priver les patients de leur dose. Certains ont remplacé le contenu des fioles par de l'eau, des solutions salines ou du jus de pomme. Un infirmier a altéré le contenu des fioles dans leur boîte avant de receler celles-ci à l'aide de rubans adhésifs. Une autre a carrément retiré un timbre de fentanyl du corps d'un patient pour se le coller dans le dos. Des patients affectés. Or, il s'agit parfois de patients vulnérables, en fin de vie, ou ayant des pertes cognitives importantes les empêchant de communiquer leur douleur. Dans le cas de l'infirmier Stéphane, qui travaillait dans un CHSLD, le conseil de discipline est allé jusqu'à qualifier les vols de maltraitance envers les aînés. Dans d'autres cas, des patients se sont plaints de ne pas être soulagés alors que leur dossier indiquait qu'ils avaient reçu leur dose, ce qui a éveillé des soupçons. Les familles des clients ont commencé à se plaindre et étaient outrées puisque les clients avaient de la douleur, mais l'infirmier de soir disait que le client ne pouvait pas recevoir de narcotiques puisqu'il y avait déjà une inscription d'administration de narcotiques au dossier. Le client se frustrait et le personnel infirmier pouvait alors croire qu'il était confus. Peut-on lire dans la preuve déposée au dossier d'un infirmier qui travaillait en soins post-opératoires? Parfois, le personnel constate que les dossiers des patients indiquent toujours des douleurs et la prise d'opiacés sous la garde d'une infirmière en particulier, alors que ceux-ci n'en réclament jamais sous la leur, ce qui sème un doute qui va mener à une enquête. Lorsqu'ils se font prendre, plusieurs ont complètement perdu le contrôle de leur consommation. Ils vont s'injecter des doses dans les toilettes ou dans les vestiaires, parfois plusieurs fois durant leur quart de travail. Ils en arrivent au point où, inévitablement, leurs collègues constatent des comportements bizarres et des signes qui les trahissent. Vous écoutez Le vol d'opioïdes par le personnel de la santé, un phénomène inquiétant, un texte de Jessica Nadeau paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir. Travailler sous influence. L'appropriation de narcotiques constitue l'une des infractions les plus graves pour un membre de l'ordre, écrit le Conseil de discipline des infirmières dans une décision de 2023. Mais le fait de consommer sur son lieu de travail est encore plus grave, note-t-il dans un autre dossier. Le fait d'exercer sous l'influence de substances comme des narcotiques constitue en soi un geste d'une gravité plus grande que l'appropriation, car, dans ce cas, les clients sont directement exposés au fait que l'infirmière est susceptible de poser des gestes qui compromettent leur santé et même leur vie. Devant les preuves accumulées par le syndic lors de l'enquête, la grande majorité plaide coupable et certains confessent même des vols pour lesquels personne n'était au courant. Lors de son témoignage, l'infirmière a parlé avec sincérité des défis qu'elle doit surmonter et a fait part de toutes les conséquences désastreuses de la perte de son emploi sur sa vie professionnelle, mais également sur sa vie personnelle et familiale. Elle indique au conseil que sa vie a basculé, qu'elle vit avec la honte et l'humiliation, note le conseil de discipline dans une décision de 2021. L'infirmière Anna parle de sa descente en enfer alors qu'elle est aux prises avec un problème de consommation. L'infirmière Florence, elle, dit y penser tous les jours depuis 2 ans. Elle s'excuse auprès de ses collègues et des patients et ne s'explique pas comment elle s'est rendue là. Un phénomène difficile à quantifier. Le fait que les infirmières et les infirmières auxiliaires appartiennent à des ordres professionnels et que les décisions sont rendues publiques permet de mettre en lumière le vol d'opioïdes chez celles-ci, tout comme chez les pharmaciens. D'autres employés, ne faisant pas partie d'un ordre professionnel, pourraient également trouver des moyens de contourner les mesures de sécurité pour s'approprier des substances, mais alors l'information ne serait pas publique, à moins qu'il ne se retrouve devant une cour de justice. Les seules informations dont on dispose sont le nombre de vols déclarés au Bureau des substances contrôlées de Santé Canada, ainsi que les quantités par molécule. Selon l'Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada, l'ampleur du phénomène dans les hôpitaux canadiens est difficile à estimer en raison d'une sous-déclaration présumée. Il s'agit, selon cet organisme, d'un problème de sécurité pour les patients et les fournisseurs de soins de santé qui n'est pas suffisamment reconnu, étudié ou traité. Même pour les corps de métier qui sont soumis à des ordres professionnels, les établissements de santé n'ont pas l'obligation de faire une plainte à ces ordres lorsqu'ils constatent qu'un employé a volé des opioïdes. C'est ce qui explique notamment que des professionnels peuvent récidiver dans plus d'un établissement avant de faire l'objet d'une enquête de leur ordre. Ce serait une bonne pratique que les employeurs fassent des plaintes de façon systématique, soutient Luc Mathieu, président de l'OIIQ. Même son de cloche à l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, OIIAQ. Pour assurer la protection du public, nous encourageons fortement les établissements à déclarer ces situations, indique-t-on au Devoir. Les présidents des deux ordres reconnaissent que ce genre de pratique existe depuis longtemps, mais rappellent qu'il s'agit quand même d'un phénomène marginal eu égard au nombre d'infirmières et d'infirmières auxiliaires dans le réseau. Un cas, c'est un cas de trop. Mais une fois qu'on a dit ça, ce sont des humains comme vous et moi, avec des problèmes de santé familiaux, etc., affirme la présidente de l'OIIAQ, Carol Grant. Bien que ces professionnels connaissent les risques de dépendance qui sont associés aux opioïdes, ils ne sont pas à l'abri de développer un trouble de l'usage de ces substances. L'accessibilité et la connaissance des molécules peuvent les inciter à y avoir recours de façon illégale, notamment dans le but de s'auto-médicamenter, explique Mme Grant. Monsieur et Mme Tout-le-Monde, lorsqu'ils ont des problèmes de dos ou des problèmes personnels, vont se tourner vers la drogue de rue ou l'alcool, mais peut-être que le fait d'avoir accès aux opiacés fait en sorte que c'est plus facile pour le personnel soignant d'avoir cette tangente-là. Dans ce type de dossier, les sentences doivent être exemplaires pour avoir un effet dissuasif, affirment les deux présidents. Mais ils rappellent que leur rôle premier est de protéger le public et non pas de punir. Les infirmières et infirmiers qui font ça, ils ont des problèmes, soutient Luc Mathieu. C'est très rare que les gens volent des narcotiques pour les vendre dans la rue. Dans la plupart des cas, c'est pour la consommation personnelle. Ils sont en situation de dépendance et ils ont besoin d'aide. Alors oui, il faut punir au terme déontologique, mais en même temps, il ne faut pas écraser les individus. C'était « Le vol d'opioïdes par le personnel de la santé, un phénomène inquiétant », un texte de Jessica Nadeau, paru le 2 avril 2025 dans Le Devoir.
Comprendre la réalité autochtone d'hier et d'aujourd'hui. Un texte d'André Magny, paru le 21 mars 2025 dans Le Franco. Depuis une dizaine d'années, l'Université de l'Alberta propose un cours en ligne « Indigenous Canada » afin de permettre à la population de mieux comprendre l'histoire des Autochtones. Un succès si on se fie aux 700 000 inscriptions et un petit pas vers la réconciliation. Professeur à la Faculté des études autochtones de l'Université de l'Alberta, Nathalie Kermoal est aussi la directrice du Rupert's Land Center for Métis Research, RCMR. L'universitaire précise très vite que ce programme de 12 modules n'est pas que sur les Premières Nations, mais qu'il comprend également un volet sur les Inuits et les Métis. Une distinction cruciale pour bien comprendre sa portée. Il vise donc à offrir au grand public une vision globale des réalités autochtones en abordant des aspects historiques, culturels et contemporains. dispensé sous la forme d'un cours en ligne, ouvert à tous, CLOT, combinant vidéos, lectures et forums. Le cours peut aussi être crédité pour les étudiants de l'Université de l'Alberta. Il contient une douzaine de modules, un par semaine, qui se penchent notamment sur les revendications territoriales et les incidences sur l'environnement, les conflits et les alliances politiques, l'activisme politique autochtone ou encore la culture autochtone contemporaine. Le succès du CLOT témoigne de l'intérêt croissant pour ces thématiques. Il y a 3 ans, on était rendu à 560 000 personnes qui avaient pris le cours, souligne Mme Kermoal. Aujourd'hui, on doit être autour de 700 000. Un cours qui ne compte pas que des Albertains. Ce cours en ligne attire une diversité d'apprenants. Certains y participent par intérêt personnel, tandis que d'autres le suivent dans le cadre d'initiatives de formation professionnelle. Il y a certains organismes qui veulent faire partie de toute la question de la réconciliation et qui demandent à leurs employés de suivre ce cours, constate l'universitaire. Un outil pour la réconciliation. Au-delà des aspects pédagogiques, ce programme joue un rôle clé dans le processus de réconciliation. Le but du cours, c'est de permettre aux gens de repenser tout ce qui s'est passé, affirme Mme Kermoal. Il y a le côté historique, mais aussi un aspect plus contemporain et qui permet de mieux comprendre les bases et de s'ouvrir aux perspectives autochtones. Denis Perrault, le directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, est l'un de ceux qui ont déjà suivi le cours. Il se rappelle que le cours ne se limitait pas juste à l'histoire ancienne, mais établissait aussi des liens avec des réalités modernes. On parlait notamment des pensionnats et de la souveraineté autour des ressources naturelles. L'étude des Métis, de figures historiques comme Louis Riel, faisait également partie du programme. Les artistes autochtones et la compréhension de leurs œuvres avaient également leur place au sein des modules. Cependant, pour Denis Perrault, le format du CLOT fait en sorte que l'interaction reste limitée, ce qui peut freiner les échanges plus poussés. Néanmoins, en prenant connaissance de certains commentaires émis par d'anciens étudiants et fournis par Mme Kermoal, on remarque que les éloges ne tarissent pas. On parle d'un cours où on apprend et désapprend beaucoup de choses sur les Autochtones. Voire un cours que chaque Canadien doit suivre pour promouvoir la guérison de notre nation. Un cours en évolution. Loin d'être figé, le contenu du cours est régulièrement mis à jour. On est une université, donc on essaie de faire en sorte de remettre à jour le contenu, précise Mme Kermoal. Depuis septembre, le cours a été actualisé pour mieux refléter les réalités actuelles. Si le cours est principalement en anglais, il reste accessible aux francophones grâce aux sous-titres et à certains modules offerts en français. Il y a aussi des mini-cours en anglais et en français, notamment sur la question du racisme structurel. Grâce à son format en ligne, le CLOT dépasse largement les frontières du Canada. Ce cours est suivi par des gens du monde entier, de l'Australie, de l'Afrique et d'ailleurs, assure Mme Kermoal. Cette portée internationale démontre l'intérêt grandissant pour une meilleure compréhension des réalités autochtones. C'était « Comprendre la réalité autochtone d'hier et d'aujourd'hui ». un texte d'André Magny, paru le 21 mars 2025 dans Le Franco.
Pensez nos déceptions amicales grâce à Samuel Larochelle. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. L'auteur et journaliste Samuel Larochelle est décidément une machine à écrire. En mars, celui dont on peut retrouver les articles et chroniques dans les pages de ce magazine a dévoilé « Une amitié à la dérive », un nouveau livre où il explore les difficultés liées aux amitiés déséquilibrées. Un retour pour Samuel Larochelle à la collection unique d'héritage jeunesse, lui qui y avait déjà publié en 2021 « Combattre la nuit, une étoile à la fois ». Bien que la littérature jeunesse soit universelle, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton livre en format jeunesse? J'ai déjà songé à aborder toutes les questions relatives à l'amitié dans un livre comme « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche » ou « J'ai déjà fait sourire un douanier » parce que ça aurait pu s'y prêter, mais ça m'aurait poussé à parler très clairement, avec vulnérabilité, un peu d'effronterie et d'humour, de relations qui existent encore. Alors que de parler de mes voyages passés et de mes relations passées, il y a une forme de détachement, de « c'est pas grave si ça brusque quelques personnes », alors que mes amis, je veux en prendre soin. La collection dans laquelle le livre est publié, unique, on est beaucoup d'auteurs de la communauté, comme Jonathan Bécotte, Gabriel Bouliane-Tremblay, Julien Leclerc, à avoir écrit pour cette collection. Il faut qu'on se base sur notre vécu ou sur des vraies réflexions personnelles, des vraies émotions. Puis l'amitié génère tellement d'émotions chez moi que je savais que ça allait beaucoup m'inspirer. C'est une collection pensée pour les ados, mais assurément assez forte pour les adultes. On parle d'un sujet qui touche autant les jeunes que les adultes. Comment protéger ses amitiés? Comment faire le deuil d'une amitié? Comment accepter ou non qu'on ne s'investit pas de la même façon? Toi qui as dû faire un travail d'introspection, es-tu en mesure de nous aider à affronter ce genre de situation d'insatisfaction amicale? C'est récent que je commence à mieux gérer ça, et c'est un de mes enjeux. Je n'ai vraiment pas fini de cheminer là-dedans. Je vis géographiquement très loin de ma famille, célibataire, sans enfants. J'arrive à mener mes 1000 projets professionnels sans que ça prenne toute la place dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup de temps à consacrer à mes amis, qui n'en ont pas toujours autant. J'ai besoin de me parler, de me rappeler que ce n'est pas contre moi, que quand je propose, la personne va accepter, qu'elle s'intéresse encore à moi, qu'elle m'aime encore. Il faut que je me le rappelle. Les choix que l'autre fait ne sont pas nécessairement contre toi, c'est juste qu'ils ne sont pas capables de mener leur vie en faisant partie de la tienne. Cette phrase-là est une phrase clé pour gérer les tourbillons de l'amitié, mais elle n'est pas facile à appliquer. Penses-tu que les personnes LGBTQ+ ont plus tendance à être confrontées à ce genre de situation? Complètement. Je pense que l'on est nombreux à faire de nos amis le centre de nos vies. Donc, quand ces relations-là se fragilisent, ça devient confrontant et très fréquent chez les queers. On est souvent dans la famille choisie, sans avoir été exclu de notre famille de sang. On a réalisé que nos amis nous comprennent davantage, parfois, que notre famille, à cause de nos personnalités ou parce que nos trains de vie ne sont pas le même. À l'instar des autres livres de cette collection, ton livre contient un visuel très particulier et original, une calligraphie qui reflète et accompagne tes propos. Est-ce que c'est un défi? Les deux livres que j'ai faits dans cette collection-là m'ont amené ailleurs. Quand j'ai écrit « Combattre la nuit, une étoile à la fois », c'était la première fois que j'écrivais du vécu, la première fois que j'écrivais de la poésie jeunesse, où tu racontes une histoire et ce n'est pas juste des poèmes isolés. J'ai apprivoisé ça et ça a eu un impact sur comment j'ai fait mes romans graphiques, « Le plus petit sauveur du monde 1 et 2 ». Je pense que s'ils ont été si bien écrits, c'est parce qu'ils ont ouvert une porte dans mon cerveau grâce à « Combattre la nuit, une étoile à la fois ». C'est de la haute voltige d'écrire des affaires de même. C'est comme un condensé d'émotions et de pensées avec des images originales, mais infiniment accessibles. Cet équilibre-là est hyper difficile à trouver. Tu as fondé en 2021 le cabaret Accent Queer, et il y a encore des spectacles en 2025. On s'en va pour la première fois à Sudbury au Salon du livre francophone le 8 mai. On va pour la quatrième fois à Québec le 10 mai, et ensuite on fait une mini-tournée, pour la première fois à Mont-Laurier le 15 mai, à Val-d'Or le 16 mai et à Rouyn-Noranda le 17 mai. C'est pas les mêmes artistes qui font tous les shows. Je suis le chauffeur, le producteur, l'animateur, un des artistes qui performent sur scène. Après le show, je ramène les gens à l'hôtel ou dans leur ville. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Comment te sens-tu à l'approche de ces spectacles? En soi, ça me ravit, avec toutes les attaques contre les communautés queer, d'avoir autant d'événements dans des grandes et des petites villes pour faire vibrer la queerness, faire entendre nos histoires, nos rires, nos pleurs et nos rêves. C'est encore plus important que jamais. Je n'ai pas l'impression que c'est infiniment lourd. J'ai environ 50 shows à mon actif, que j'ai produits et animés, donc je suis rodé maintenant. Les réflexes sont aiguisés et je sais quoi faire. Ce n'est pas reposant, mais ce n'est pas étourdissant. Ton cabaret Accent Queer prenant de l'ampleur au fil des années, te vois-tu en faire une occupation principale? Agrandir la production? Est-ce que dans 5, 10 ou 15 ans, si j'ai une renommée qui me permet de remplir une salle en solo, j'aimerais mélanger moi qui chante, moi qui lis des textes, moi qui livre des numéros d'humour? Oui, ce sera un fantasme à long terme. Mais présentement, faire des cabarets, c'est premièrement avoir une connexion avec le public, qui est comme une drogue. Deuxièmement, créer des lieux où on célèbre la queerness avec la moitié de la salle qui est queer et l'autre moitié qui est hétéro et tout le monde qui tripe ensemble. Et troisièmement, que le public connaisse de plus en plus de personnalités queer. Je veux comme servir d'amplificateur à ces artistes, parce que plus on va être nombreux à se faire entendre, plus on va être puissant dans notre façon de résister. Info, une amitié à la dérive, de Samuel Larochelle, édition Héritage Jeunesse. C'était « Pensez nos déceptions amicales grâce à Samuel Larochelle ». Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.